Bien, je vous remercie donc d'être présent pour cette troisième séance qui s'appelle Au fil des liens et puis qui va s'intéresser à l'hypertextualité. Alors, je ne vous cache pas que j'ai passé énormément de temps à être frustré, à être déçu à chaque fois, de faire des sacrifices à droite et à gauche parce que le sujet m'inspirait et il y en aurait pour des heures et des heures. Mais je vais essayer d'aller un petit peu sur différentes choses. Alors, je reviens sur l'hypertextualité, un petit peu comment moi je l'ai découverte anecdotiquement, parce que l'hypertextualité m'intéresse parce que ça change notre rapport à l'écrit, ça change notre rapport à la disposition des connaissances et la façon dont on va se les approprier. Et l'hyperactivité, enfin l'interactivité, pardon, l'hyperactivité, ça c'est un petit peu speed des fois, mais l'interactivité et l'hypertextualité, c'est quelque chose que j'ai commencé à découvrir il y a plein d'années de ça, quand j'étais en psycho, puis qu'on avait un petit peu d'initiation à l'informatique. Dans les années 80, on faisait un petit peu d'informatique en psycho. Et notamment, on avait eu un cours sur un truc qui s'appelle Hypercard. Et Hypercard, eh ben, c'était une application qui était une application hypertexte, et où le principe, eh ben, c'était de créer une interface avec des boutons, des images, etc. Et puis on avait comme ça une navigation qui n'était pas linéaire. Et moi, ça m'intéressait parce qu'à l'époque, je m'intéressais aussi aux jeux vidéo, qui pour moi étaient déjà des formes de narration non linéaire. Donc ça, c'était les premiers trucs que j'en avais vus. Et puis ça doit être en 1993, quelque chose comme ça. J'ai commencé à être connecté à Internet à cette époque-là. J'étais connecté donc à l'ENSIB, qui est l'école nationale supérieure des bibliothèques. Et donc j'avais mon premier compte Internet là-bas. Le premier compte Internet, ça voulait dire qu'on avait une interface qui était parfaitement austère, puisqu'on utilisait un terminal avec un clavier qui ne savait pas qu'on avait des accents. Donc on parlait une langue sans accent. Qu'on soit provençal ou québécois, ça ne s'entendait pas. C'était rudimentaire. Et puis, pour avoir de l'information, on ne se faisait pas harceler au niveau de la messagerie. La messagerie, je pouvais la relever une fois par semaine pour avoir une petite dizaine de messages à consulter. Donc du coup, je m'inscrivais à des listes de discussion. Les listes de discussion, c'est quelque chose qui a en partie disparu aujourd'hui, mais il y en a encore plein qui fonctionnent toujours. Les listes de discussion fonctionnent mieux que certains réseaux quelques années après, d'autres qui ont disparu. Mais en tout cas, ces listes de discussion, il y en avait une qui m'intriguait, qui s'appelait www. Et là, on était en 93-94. Je me suis inscrit sur cette liste pour suivre les discussions, et c'est au travers du courrier électronique que j'ai commencé à découvrir le web. Alors c'était quelque chose d'assez rudimentaire, parce qu'à ce moment-là, eh ben, on était véritablement dans les discussions de comment allait fonctionner le web. Jusqu'au jour où il y a un copain qui me dit « viens voir ». Et il m'a mis devant une machine, et là il y avait un logiciel qui s'appelait Mosaic, qui est un logiciel que j'avais jamais essayé, mais qui permettait justement de naviguer sur ce fameux www dont la liste discutait depuis un moment. Et ça a été une sorte de révélation, l'idée de dire que waouh, là Internet prend un visage. Et c'est ce qui m'intéresse dans le web, c'est que si Internet était quelque chose qui fonctionnait beaucoup déjà depuis un moment, qui continuait à croître. Le web a ceci de particulier par rapport à Internet, c'est qu'il a donné un côté spectaculaire à Internet, il l'a rendu visible et lisible en même temps. Parce qu'Internet, jusqu'à ce moment-là, c'était avant tout des gens qui faisaient du mail, des gens qui échangeaient des fichiers. Et même s'il y avait beaucoup d'activités autour de ça, c'était une activité importante, une activité utile, fonctionnelle. Alors quand je dis utile, c'est que... après on jugera chacun de ce qu'on appelle utilité. Mais ça marchait bien. Le web a fait entrer le grand public vers Internet en étant relayé par les médias. Parce que les médias ont commencé à s'intéresser à Internet, à en parler, à partir du moment où il y a eu le web. Avant le web, même si ça existait, ça les intéressait très très peu. Parce que montrer à la télévision, au journal de 20 heures, une capture d'écran d'un logiciel de messagerie, c'est pas très très télégénique. Mais à partir du moment où vous allez avoir des images, où vous allez avoir du texte, où vous allez commencer à avoir de la mise en page, on entre dans le spectaculaire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les médias, comme la presse, comme la télévision, vont pouvoir commencer à être des relais qui vont démocratiser Internet. Ce qui va m'intéresser au travers de la conférence que je vais faire ce soir, eh bien, c'est plutôt d'essayer de voir un petit peu comment notre rapport à l'écriture, notre rapport à l'organisation de l'information va avoir évolué avec Internet. Alors en partant malgré tout d'une brève histoire ou deux brèves histoires, il faudrait que je choisisse un moment ou un autre, parce que ça s'accorde un jour. Mais une histoire des supports, une petite histoire des supports, parce que ce qu'on va voir, quand on va arriver au web, dans les années 90, eh ben, le web, ça reste un héritage de notre culture des pratiques informationnelles, des pratiques de lecture qu'on a acquis au fil des millénaires. Et je dis bien au fil des millénaires, puisque ce qui va être amusant, et c'est en ça que, vous voyez, je sous-titre un petit peu à l'intérieur de façon un petit peu amusante, c'est de la tablette à la tablette, des tablettes aux tablettes. C'est-à-dire qu'on a commencé l'écriture avec les tablettes, et au jour d'aujourd'hui, ce qui est tendance, ce sont les tablettes. Donc, il y a quand même cette idée qu'il y a probablement des liens qui vont se tisser entre des hyperliens et des liens directs. J'essaierai de voir un petit peu avec vous ce que c'est qu'un hypertexte, de voir un petit peu comment fonctionne le web d'une certaine manière, et puis j'essaierai de parler un petit peu de l'évolution des pages web sur plusieurs générations, entre guillemets, alors, je vais pas dire sur plusieurs générations, sur plusieurs versions des langages de conception du web qui traduisent, en fait, qui sont symptomatiques de l'évolution des pratiques de lecture et des pratiques d'appropriation du web par les gens qui le font et par les gens qui le fréquentent. J'évoquerai aussi, j'espère, les parcours de lecture et puis des choses que ça change, l'interactivité, l'hypertextualité sur notre façon de lire. Et puis je terminerai en parlant un petit peu de génération de web, pour essayer de boucler un petit peu cette idée, en étant dans l'idée que on est aujourd'hui dans un truc qui se pose la question du web pervasif, mais est-ce qu'on n'est pas aussi à la veille de d'autres formes d'organisation du web, de répartition de l'information, de co-construction et de collecture de l'information? Il y a des choses de ce genre-là qu'on pourra peut-être évoquer, soit je vous en parlerai, soit vos questions m'inviteront à y revenir. Alors si je parle de la tablette et du papyrus, eh bien effectivement, grosso modo, 7000 ans avant aujourd'hui, c'est une traduction que je fais pour permettre à toutes les cultures de se positionner dans le temps. Donc 7000 ans avant aujourd'hui, on a les tablettes qui vont permettre, eh bien effectivement, d'enregistrer des traces. Ce qui me paraît intéressant dans la tablette, c'est que ça permet d'enregistrer des traces, mais ça permet aussi de les effacer. Parce que les tablettes, elles ne sont pas forcément cuites, au contraire, c'est de la terre. Et cette terre, à partir du moment où elle est humidifiée, on va pouvoir effacer le contenu de la tablette pour pouvoir la réutiliser. Donc il va y avoir comme ça un outil qui permet de prendre des notes. Et l'utilisation première des tablettes, en fait, c'est dans un premier temps de faire des listes de stock, et puis dans un deuxième temps, eh bien, de rapporter un petit peu tout ce qu'a pu gagner tel ou tel vainqueur de bataille, et de, comme ça, faire l'inventaire là aussi de ce qu'il a ramené et de faire le tour de ses batailles. Ça nous amène vers le papyrus qui lui, eh bien, amène à une autre évolution. Le papyrus va permettre, par rapport à la tablette, eh bien, d'avoir des documents qui vont être plus longs. Parce qu'un des inconvénients de la tablette, c'est que c'est lourd. C'est lourd. Plus c'est grand, plus c'est lourd. Et plus c'est grand, plus c'est fragile. Si on ne veut pas que ça soit fragile, il faut que ça soit épais. Donc ça devient très lourd. Trimballez-vous avec les tables claudiennes que vous voyez tout de suite que ce n'est pas très très pratique. L'avantage du papyrus, c'est qu'on va avoir un support qui est plus léger. On va avoir un support qui, en plus de ça, va permettre d'avoir des textes qui sont beaucoup plus longs, puisqu'on va pouvoir associer faire un papier qui est relativement long, mais pour pouvoir le gérer, on va le rouler. On va le rouler. Alors le fait de le rouler, ça va produire des écritures particulières. Parce que ça veut dire que lorsqu'on va lire, on va être soit dans une logique de déclamation avec quelque chose qui se déroule, et on invente un petit peu le prompteur d'une certaine manière. Mais ça veut dire aussi qu'on a un accès à l'écriture qui est bien particulier. Qui est bien particulier parce que on n'y accède pas de façon séquentielle. On ne peut pas aller à la page 10. On est obligé de dérouler tout au long. Comme vous le voyez avec cette image de la Torah, qui va ensuite, ici, nous ramener vers le codex. Alors le codex, c'est quand on passe à une logique de page, où on va en fait découper un rouleau, un parchemin, et mettre en place une reliure. Cette reliure, elle a un premier avantage, c'est effectivement dans la façon de lire, on n'est plus obligé de lire en flux. On va pouvoir lire avec des accès par point à l'intérieur du texte. On va pouvoir avoir des marqueurs de texte. Alors les marqueurs de texte, ils existaient quand même avant. C'est-à-dire que dans un rouleau, on allait avoir des enluminures, des dessins, des images qui permettaient d'avoir des points de repère et de se retrouver assez rapidement à l'intérieur du rouleau, grâce à ces petits repères visuels. Mais avec la gestion par page, ben vous allez avoir la numérotation et donc tout un système qui va permettre de créer des index, qui va permettre de créer des sommaires. Et lorsque je suis dans l'index et le sommaire, à part si je suis en train de lire un roman policier, et ben c'est particulièrement intéressant et les scientifiques en ont fait, et pas seulement les scientifiques, toutes les personnes qui vont avoir besoin de retrouver de l'information à l'intérieur d'un document vont pouvoir retrouver, grâce à une table des matières, un sommaire où ça se situe. Et du coup, on commence à avoir une lecture qui est en train de se fragmenter. Elle n'est pas forcément continue, cette lecture. Quand on passe au livre, donc le livre, c'est la continuité du codex. Le livre, lui, va permettre donc effectivement de recueillir une information. Le livre va permettre aussi, on le voit ici par rapport à la bibliothèque d'Alexandrie dont il y avait une gravure quelques diapos plus tôt, permet un rangement, un classement de l'information qui est différent. Donc on va pouvoir commencer à mettre en place des stratégies de classement. Alors je ne vais pas reprendre toutes les stratégies de classement qu'il y aurait pu y avoir, mais on peut repenser aux logiques qui permettaient de classer les documents et de s'y repérer, mais en sachant aussi qu'il y a un rapport qu'on va retrouver et qu'on retrouvera plus tard dans le web à des logiques rhétoriques qui vont s'inspirer de la topographie et faire en sorte qu'on va classer les documents par proximité parce qu'ils sont dans des champs qui sont des champs proches. Et ça, je pourrais revenir dessus à un moment, mais ça découle effectivement de tout un tas de logiques héritières de la rhétorique où pour se rappeler où est l'information, ou pour se rappeler plus exactement comment on organise son discours, quels sont les arguments qu'on va mettre les uns après les autres, eh bien on essaye d'organiser sa pensée en la projetant sur une carte, sur un territoire. Un territoire qu'on connaît bien, c'est-à-dire que le rhéteur, s'il veut se rappeler dans quel ordre il va mettre ses arguments, il va penser à la promenade qu'il fait tous les jours, et qui fait qu'il commence par la Grande Croix, et à la Grande Croix, il associe tel élément, tel argument de son discours. Et après la Grande Croix, il va passer par sous le petit olivier qui est un petit peu plus loin. Et au petit olivier, il associe le petit olivier à quelque chose de particulier. Donc, ce truc-là lui permet, lorsqu'il va ensuite prononcer son discours, d'avoir ses arguments qui sont organisés selon un parcours, et lui, dans sa tête, pendant qu'il est en train de parler, vu qu'il n'a pas de papier, je vous rappelle qu'on utilisait somme toute assez peu l'écrit du temps de la rhétorique en Grèce, ça permet comme ça d'avoir des éléments, des techniques, des mémotechniques permettant de se repérer et de ne pas oublier un argument, de ne pas oublier des choses qu'on voulait dire. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, on transfère sur une carte l'organisation de nos connaissances. Ce qui se traduit dans le langage courant par dire que les mathématiques, c'est près de la physique. Et la psychologie, c'est près de la sociologie. Si vous allez dans une bibliothèque, c'est pas simplement en concept que l'un et l'autre sont prêts. c'est physiquement. Le rayon de la psycho est pas loin de celui de la socio. En tout cas, il est plus proche de celui de la socio que de celui de la physique. À tort ou à raison, mais en tout cas, cette organisation-là, ce territoire, fonctionne. Alors, le rapport, ensuite, le livre ici, bon, j'ai mis derrière une gravure de la roue de Ramelli. La roue de Ramelli, c'est une technique qui est inventée au 15e, 16e siècle et qui a pour objectif de permettre à l'érudit de construire un parcours, de pouvoir lire plusieurs livres en même temps. Parce que vous voyez que sur cette espèce de roue, il va pouvoir disposer une bonne dizaine de livres et les ouvrir à certaines pages. Ces pages seront conservées et ça lui permet comme ça d'avoir un pupitre, lui permettant de passer d'un livre à l'autre sans perdre la page qu'il a sur les livres et sans avoir besoin d'un bureau qui fait plusieurs mètres carrés et sur lequel il devrait jongler d'un endroit à l'autre. Donc on a là aussi un transfert de l'organisation de la pensée de l'érudit. Et cette pensée ici, elle est dans une roue, dans quelque chose qui est cyclique. On aurait pu conserver un étalage des documents permettant d'avoir une pensée, entre guillemets, topographique. Ceux qui ont vu le bureau, des photos du bureau de Jean Piaget, verront que le bureau de Jean Piaget reste un lieu de pensée totalement topographique. Mais aussi en profondeur, parce qu'il y a plusieurs centimètres de paperasse, de livres et de bouts d'écrits à droite à gauche. Ce qui va se passer, c'est avec l'arrivée de l'imprimerie, on va avoir des organisations de la page qui vont commencer à changer. Alors on a une page qui est la page du livre, qui reste une page monocolonne, mais on va voir apparaître avec la presse et avec d'autres livres, comme ici un dictionnaire, des logiques qui sont multicolonnées. Et ce multicolonnage, en fait, permet de revenir là aussi à une forme d'organisation dans l'espace de l'information qui est différente. Puisque lorsque je présente de l'information à la une d'un journal sur plusieurs colonnes, ce n'est pas forcément la même information qui est sur les cinq colonnes à la une. C'est sur les cinq colonnes à la une, lorsqu'effectivement c'est une information qui occupe tout l'espace médiatique, et donc qui est totalement incontournable. Mais l'idée d'utiliser plusieurs colonnes, la structure de la page, de la première page du journal, c'est une structure qui invite déjà à une forme d'hypertextualité, parce qu'elle va permettre d'avoir des informations de différentes natures qui proposent des entrées à l'intérieur du journal par des pages différentes. Ce qu'on retrouve aussi donc dans le dictionnaire, puisque le dictionnaire, c'est aussi une organisation qui permet d'aller chercher des contenus de façon non linéaire. Sauf que là, on a une règle, entre guillemets, de base, c'est qu'on entre avec un mot dont on connaît le début du mot, et puis ensuite, on va pouvoir, et on l'a tous probablement fait avec le petit Larousse vert qu'on nous avait filé à l'école primaire, passer d'un mot à l'autre à partir d'une première définition qui vous envoie sur une seconde définition, qui vous envoie vers une troisième, etc., etc. Et on retrouve là un parcours de clic en clic qui est quand même assez proche de tout un tas de navigations qu'on va avoir sur le web et qu'on appellera plus tard le web surfing. Alors, là, de beaucoup plus proche, à la fin du 19e siècle, à l'ère industrielle, on a une idée que l'information doit pouvoir être traitée différemment. Et il m'a semblé intéressant de penser à l'affiche. Parce que l'affiche, c'est une façon d'identifier l'information à l'intérieur d'un corpus et lui donner une certaine autonomie. L'intérêt de l'affiche aussi, c'est de dire qu'on est en train de constituer un fonds documentaire, un lieu où on va constituer une ressource, mais que cette ressource-là est évolutive, puisque je peux rajouter d'autres fiches. Si j'avais mis ici, pareil, un fichier simplement pour les carnets d'adresses, l'avantage du fichier quand on a un carnet d'adresses, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a des amis supplémentaires, on peut rajouter des fiches à l'intérieur classées par ordre alphabétique, et puis quand ce ne sont plus nos amis, on peut aussi les enlever très facilement. Beaucoup plus facilement, en tout cas, que dans un petit carnet, même si c'est un carnet en forme de répertoire. Donc on gagne une certaine souplesse. À côté, vous avez un appareil qui est le Memex. Le Memex, c'est un appareil qui a été pensé par un Américain qui s'appelait Vannevar Bush. enfin Bush, Vannevar Bush, c'était bon, quelqu'un qui a travaillé, qu'on retrouverait à différents endroits dans l'histoire de l'informatique. Mais il avait pensé, en 1945, dans un article qui s'appelle Assume et Think, comme on pourrait penser, la face, il imagine comment on pourrait penser, comment on pourrait organiser l'information. Et là, avec un appareil qui est antérieur à l'existence des ordinateurs, il a dans l'idée de mettre en place une espèce de bureau, de machine, qui serait capable d'accéder à des flux de cinématographie, à des films, qui serait capable d'accéder à des photos, à des échantillons de son, qui serait capable d'accéder à des textes, et que tous ces éléments-là, eh bien, seraient rendus disponibles sur des écrans, et que ces écrans-là pourraient servir eux-mêmes à piloter cet appareil. Il imagine que les technologies qui vont être utilisées sont essentiellement des technologies liées à la miniaturisation, et en particulier l'utilisation des microfilms, et etc. Mais on voit bien qu'il est en train de penser, à partir de ces cartes, à partir de ces logiques de documents qui sont éclatés à différents endroits, que non seulement on va pouvoir rajouter des informations supplémentaires, mais ce que lui il est en train de penser, c'est qu'on va pouvoir créer des documents à partir de d'autres documents, que les documents vont pouvoir se mixer et se remixer les uns avec les autres en fonction des usages dont nous aurons besoin. La diapo que, alors l'image que vous avez sur la gauche, c'est en 1969 où on commence à avoir chez, il me semble que chez IBM, si je ne dis pas de sottises, un appareil qui sert à faire de l'hypertexte. Alors, il fonctionne avec un crayon optique et une interface qui va grosso modo disparaître, mais avec cette idée que effectivement on a du texte à l'écran et que le texte à l'écran c'est un texte qui peut s'effacer mais qui peut permettre d'être un lieu, un point de départ vers d'autres textes. J'utilise aussi une référence à un autre projet en fait qui était le projet Xanadu qui était développé par qui était pensé et développé en partie par un anglais qui s'appelait Ted Nelson. Enfin, il doit s'appeler encore Ted Nelson. Pour l'instant, je n'ai toujours pas. Je l'ai croisé, il était âgé, mais apparemment, il est peut-être encore bon pied, bon œil à vérifier. Toujours est-il que Ted Nelson avait pensé un projet qui s'appelait Xanadu, et le principe du projet Xanadu, c'était un projet qui devait permettre, eh bien, en fait, de créer des textes qui seraient enrichis par d'autres personnes qui seraient reliées les uns avec les autres, mais qui n'avaient pas un lieu central de production et de gestion des textes, mais qu'on allait avoir, comme ça, un ensemble un maillage entre les textes, entre les documents, qui serait évolutif. Le principe de Ted Nelson était même que ce système irait un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les liens qui seraient produits ne seraient pas des liens qui seraient produits à partir du document source, mais des liens qui seraient produits à partir des usages de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, si vous cliquez sur le mot chat, ça dépendra de votre rapport à vous au mot chat, pour savoir ce que ça vous donne comme résultats qui sont derrière. Donc il y avait des choses qui sont de cet ordre-là. Je ne me rappelle plus exactement des règles précises, mais en gros, Ted Nelson avait défini 17 règles nécessaires pour que ce projet fonctionne, qu'il atteigne son but. Et le web doit en avoir réalisé entre 11 et 14 sur les 17. Donc on voit que le web est un véritable descendant du projet de Ted Nelson. D'autant plus qu'il est devenu un peu plus descendant du projet de Ted Nelson à partir du moment où on a pu commencer à éditer directement à l'intérieur du web au travers, par exemple, de technologies qu'on appelle les wikis. Parallèlement, il y a donc au CERN de Genève un projet qui s'est développé, qui a été mené par une personne qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui fait toujours partie des gens qui sont au cœur du développement et de l'évolution du web, mais qui, il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans, puisque c'était en 91, a donné naissance à ce qu'on va appeler plus tard le web. Alors le web, au départ, c'est quelque chose... Tim Berners-Lee n'a pas été payé pour inventer le web. Il était payé pour travailler sur de la gestion documentaire, pour améliorer des choses. Et en fait, le principe sur lequel a reposé le web de Tim Berners-Lee, c'était de sortir de l'accès aux données telles qu'on les connaissait à l'époque dans les bases de données, c'est-à-dire de faire des requêtes à partir de formulaires et en utilisant un lexique particulier à notre recherche, des syntaxes particulières pour interroger la base de données et les différents champs qu'il pouvait y avoir dans la base de données, qui était de dire, en sens inverse, que le document allait, lui, nous relier au document qui était connexe. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner par une recherche qu'on allait faire sur un moteur d'interrogation de base de données, on allait créer des documents qui pointeraient, qui feraient des associations avec les autres documents. Et donc de définir un marquage qui, à l'intérieur du web, de la page, va permettre de dire qu'un mot, une image, etc., sont reliés à un document complémentaire qui va amener une information différente. L'idée était notamment de créer des documents où les scientifiques pourraient les uns les autres rajouter des liaisons pour, par exemple, il y a un schéma qui explique tel et tel truc, eh bien je peux créer un lien qui renvoie au schéma. Ou le schéma existe quelque part, je vais pouvoir inclure ce schéma à l'intérieur de l'image. Le HTML sera donc le langage qui va être utilisé pour ça. Le HTML, ça veut dire Hypertext Markup Language. Je reviendrai un petit peu dessus, mais ça veut dire que, en gros, c'est un langage de balisage qui sert à dire que dans le texte, il y a certains éléments qui ont des vertus opérationnelles. Vertus opérationnelles qui permettront d'aller chercher un autre document. Vertus opérationnelles qui permettent d'afficher à l'intérieur d'une page autre chose que le contenu de la page. Une image, une vidéo, une autre page. Et puis aujourd'hui, on arrive vers d'autres approches de l'organisation du document, et j'avais dit que je partais de la tablette et que je revenais à la tablette. Je fais l'intermédiaire entre les deux avec les SMS, et de dire que on était dans un univers de l'information qui semblait être en train de devenir dominé par l'ordinateur. Or aujourd'hui, un des objets les plus utilisés pour consulter de l'information, c'est le téléphone mobile, les smartphones. Et avec ces appareils-là, eh bien, on a à nouveau accès au web. Mais cet accès au web, par rapport à ce qu'il avait permis et tel qu'il avait évolué jusque-là, eh bien, il va revenir à quelque chose qui est un petit peu antérieur. C'est-à-dire que si on regarde l'écran de gauche, où on voit des extraits de ce qu'on pourrait voir sur un téléphone mobile, on revient à l'ère du volumen, avec quelque chose qui va se dérouler et qui va défiler. Alors, on était revenu à l'époque du web, et peut-être j'aurai le temps de le relire et revenir un petit peu dessus plus tard, mais on voit bien qu'ici, on a un retour vers une forme de lecture qui est celle qu'on avait à l'intérieur du volumen. Et malgré tout, je vais anticiper, cette lecture-là, vous voyez qu'elle a des nouveaux points de repère, parce que pour que je puisse me repérer, à l'intérieur des différentes informations que je fais défiler du bout du doigt, eh bien j'ai ces petites icônes qui sont de tous les côtés. Les petites icônes que je vais avoir ici qui indiquent quel est l'émetteur du message, la source du message, sont des éléments qui vont nous permettre de nous repérer rapidement à l'intérieur d'un défilement qui devient de plus en plus infini. Alors vous verrez aussi, vous avez peut-être vu que ces logiques de défilement, on les retrouve aussi sur les tablettes, et que certains opérateurs du web ont pris la sale manie de penser le web pour ces appareils-là. Et que ce n'est pas toujours le cas, je pense en particulier, je le dis parce que ça fait plusieurs jours, je les hais profondément pour des choses qu'ils ont changé dans leur façon de fonctionner. Ça fait plusieurs mois qu'ils ont changé, mais là j'en peux plus, je craque, alors je le dis. Flickr, je ne sais pas si vous connaissez le site Flickr, Le site Flickr, c'est un site qui permet de proposer des photos, de déposer, de partager des photographies. Et le site Flickr, comme d'autres sites, il n'est pas le seul, notamment tous les sites des moteurs de recherche qui vous permettent de faire des recherches sur les images, aujourd'hui vous proposent des interfaces infinies sur le déroulement des images. C'est-à-dire que vous recherchez des images, et puis au fur et à mesure que vous faites descendre la page, il y a des nouvelles images qui arrivent. Et plus vous continuez, et il y a toujours des nouvelles images, et il y a toujours des nouvelles images, et il y a toujours des nouvelles images. Alors, quand on s'ennuie dans le métro, c'est sympa. Mais, quand vous êtes en train de rechercher une image, eh bien, imaginez comment vous allez pouvoir vous repérer à l'intérieur de cette organisation documentaire pour ensuite retrouver la photo que vous avez aperçue il y a 2 secondes et qui vous paraissait sympa. Eh bien, ça devient difficile. En plus de ça, si vous devez dire à machin ou à truc, sur le site de Flickr, j'ai vu une photo qui était vachement bien, mais alors je ne sais plus si c'est dans le premier 1% de la page ou dans le pourcent infini qui est au bout de 10 ou 12 minutes que tu fais défiler la page. Parce que voilà, on va pouvoir dire peut-être éventuellement en temps de défilement, mais on n'a plus de point de repère, on ne sait plus où c'est. Il y a 2 ans, on vous disait combien il y avait de réponses à votre question, et on vous disait qu'il y avait tant de pages pour y arriver. Comme ça, vous pouviez vous dire, ah ouais, je l'ai trouvé à la 2e ou à la 3e page. Vous n'avez plus le droit de dire c'est à la 2e ou à la 3e page. C'est fini. Donc, le seul moyen que vous avez, c'est de vous inscrire sur le site et de la mettre dans vos favoris. Comme ça, on sait bien ce que vous aimez, tout ce que vous regardez. Et puis vous avez un classement supplémentaire, une information supplémentaire à gérer, un compte supplémentaire à gérer, etc. etc. Donc, ça m'énerve. Alors, revenons au web. Ça, c'est sympa. Alors, ici, j'ai montré un petit schéma qui est là pour réexpliquer un petit peu comment fonctionne le web et comment fonctionne un petit peu Internet. Parce que le web n'est pas différent d'Internet. Le web est un protocole à l'intérieur d'Internet. Plus exactement, le protocole, il s'appelle HTTP. Vous avez vu ça quand vous tapez une adresse avant les W ou avant surtout les 2.//, comme disent les Québécois, //. Donc avant les 2.//, vous avez HTTP, parfois HTTPS. HTTP, eh bien c'est... Ouais, ça marche encore. HTTP, c'est hypertexte, transfert, protocole. Donc, c'est un protocole qui est adapté à la transmission de documents hypertextuels, de fichiers hypertextuels. Ces fichiers-là sont structurés avec un langage qui s'appelle le HTML. Mais c'est bien un protocole à l'intérieur d'Internet. Des protocoles, il en existe plein d'autres. Il y en a un qui s'appelle le FTP, File Transfer Protocol. À mon avis, il a des problèmes de charge. Ouais, on peut à ça près. Hein. Donc, ouais, on les aura. Donc le File Transfer Protocol est basé, lui, sur l'échange de fichiers. Il va essentiellement donc permettre de se passer des gros fichiers ou de déposer des fichiers ou aller chercher des fichiers quelque part. Le HTTP, pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne, eh bien, on pourrait peut-être repartir du courrier électronique. Et puis un petit peu comment moi j'ai découvert le web avec le courrier électronique, avec cette espèce de messagerie très compliquée. Les informaticiens sauront de quoi je parle quand je disais que j'utilisais ELM avec un éditeur VI pour faire de la messagerie électronique. Je peux vous garantir que c'est pas grand public. C'est franchement pas grand public. Donc, malgré tout, avec ça, il existait des gens sur Internet. Alors à l'époque, on n'était pas très nombreux. Et à la limite, si vous vouliez savoir le temps qu'il faisait demain, qu'il allait faire demain, et ben vous écriviez à votre copain qui avait une adresse Internet et qui était à la météo, dans le coin, à Lyon, et puis vous lui disiez, tiens, tu peux m'envoyer le bulletin d'info pour demain. Et comme on était tout content de recevoir un mail, surtout lui, enfin c'était pareil, et bien il était content de me répondre. Donc il m'envoyait le bulletin. Et puis il a commencé à avoir des amis. Et plein d'amis qui se sont connectés, puis qui ont dit, tiens, demain, il fait quel temps? Alors, on va dire qu'à force de lui demander cette information-là, ça commence à être une information qui vient énervante à être envoyée. Et bien, on va dire que le web va devenir un espèce de répondeur automatique à la question, quel temps fait-il demain à Lyon? Et ça marchait effectivement un petit peu comme ça, par courrier électronique à un moment donné, c'est-à-dire que j'allais consulter le web avant que Mosaïk arrive, je pouvais consulter en partie le web avec ma messagerie électronique, puisque en fait, si je voulais avoir la météo, eh bien, j'envoyais un message à un serveur pour lui dire je veux la météo. Il me renvoyait un message en me disant c'est bon, tu as la météo, maintenant il faut que tu choisisses quel continent. Donc je choisissais l'Europe. Une fois que j'avais choisi l'Europe, je choisissais la France, et à chaque fois j'envoyais un message. Quand le message arrivait, en fait j'avais un petit espace où je mettais un tiret ou un signe qui était analysé par l'ordinateur en face et qui disait ce qu'il veut, c'est la météo à Bron. Donc il me renvoyait le message avec la météo au final à Bron. Le web fonctionne donc grosso modo de cette façon-là, avec une logique qui est une logique qu'on appelle client-serveur. En fait, aujourd'hui, quand on navigue sur le web, on n'utilise pas son logiciel de courrier électronique, on utilise un navigateur web. Certains appellent ça aussi un butineur. Ça, c'est les Québécois qui avaient trouvé ce nom-là. Un butineur web. Le navigateur web vous permet, en fait, au départ, d'indiquer une adresse électronique avec un site, HTTP, alors ça c'est le protocole, /// et ensuite je vais avoir le nom du site, www.meteo.fr par exemple, qui dit que je veux aller interroger cet ordinateur-là. Si je ne sais pas sur quoi l'interroger, je m'arrête ici, il me renverra un fichier d'index qui me fera un certain nombre de propositions, de points de départ. Si je sais par exemple que je veux la météo de Bron, peut-être que sur ce serveur, je pourrais taper http://www.meteo.fr/bron.htm. Quand je vais taper bron.htm dans ma barre de navigateur tout en haut et que je vais cliquer sur Entrée, c'est un petit peu comme si j'envoyais ce fameux message dont je parlais tout à l'heure. Ce message va partir vers le serveur, va arriver vers le serveur, qui reçoit un message qui lui dit « Eh ben, il y a quelqu'un qui veut le fichier bron.htm. » Le fichier, il contient les informations sur la météo à Bron. Aussi sec. Il me renvoie ce fameux fichier bron.htm qui est comme un espèce de courrier électronique qui va être envoyé non pas à mon logiciel Thunderbird, par exemple, mais qui va être envoyé à mon navigateur qui s'appelle Firefox, Internet Explorer, Chrome, Epiphany, etc. Vous en avez plein d'autres. Opéra. Et donc, une fois qu'il va arriver, eh bien, ce que va faire mon navigateur, c'est pas me dire « Vous avez un nouveau message ». Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire ce message et puis interpréter ce qui est à l'intérieur pour l'afficher de façon visuelle. Parce que le langage HTML, c'est un langage, je vous disais tout à l'heure, de balisage, Hypertext Markup Language. Ce langage de balisage, ce qu'il va dire, c'est qu'à l'intérieur du texte, il y a des éléments qui constituent du titre. Et donc, il y a une balise qui s'appelle H1, pour dire que c'est un titre de niveau 1. Nous, on ne le voit pas. C'est dans le fichier qui s'appelle source. Vous essayerez, vous verrez, avec votre navigateur, si vous faites un clic avec le bouton de droite, ou vous allez voir dans vos menus quelque part, de temps en temps, vous avez peut-être aperçu un endroit où il y a écrit « afficher le source ».« Afficher le fichier source ». Enfin, si vous affichez le fichier source, vous allez voir le message qu'a reçu votre navigateur et le message qu'a interprété de votre navigateur. Donc H1, c'est du titre, et bien il va le styliser comme étant un titre de niveau 2. S'il a une balise qui lui dit que c'est un paragraphe, et bien il va aligner les choses comme si c'était un paragraphe. Si j'ai une balise qui s'appelle strong, qui va jusqu'à une balise qui s'appelle /strong, eh bien, il va dire que tous les éléments qui sont entre strong et /strong doivent être mis en gras. Donc, j'ai comme ça une mise en forme, sommaire pour l'instant, mais une mise en forme de mon texte. où ça devient de l'hypertexte. C'est lorsque, à l'intérieur, je vais avoir, par exemple, une balise qui s'appelle IMG, SRC égale. Alors, IMG, SRC, IMG, c'est pour dire image, SRC, c'est pour dire source, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'image, et le égal, eh bien, c'est l'adresse où va se trouver l'image. Cette adresse-là, je ne vais pas rentrer dans le détail ici aujourd'hui, mais le principe de cette adresse-là, c'est que ça peut être, c'est l'image qui va s'appeler photo1.jpeg, qui se trouve par exemple sur cet ordinateur, ou l'image photo1.jpeg qui se trouve sur Flickr, parce que j'ai quand même fini par réussir à choper l'adresse Flickr, quoi que j'en dise. Donc, à partir du moment où je lui dis que mon image elle est sur Flickr ou sur mon ordinateur, si le serveur où se trouve l'image est actif, ce que va faire mon navigateur lorsqu'il va recevoir le message, il va arriver sur la balise qui s'appelle IMG et dire « Ah, chouette, ici je vais devoir afficher une image. Cool, elle est où ?» Elle est là, je vais la chercher maintenant et je vais l'afficher à cet endroit-là du document. Que ce soit sur mon ordinateur ou que ce soit sur un autre ordinateur. Et vous voyez l'intérêt qu'on a sur le schéma ici d'avoir plusieurs ordinateurs qui sont en réseau. C'est-à-dire que lorsque j'affiche une page web, les informations qui sont dans la page web ne sont pas forcément véritablement dans la page web. La page web a été chercher les différents éléments affichés sur le même serveur ou sur un autre serveur. Dans une page web, dans le fichier lui-même, il n'y a pas d'image. On va chercher l'image à part. Si l'image, si la source est mal indiquée, il y aura une erreur qui s'affichera, ou pas d'image qui s'affichera. Donc, ici, ça fonctionne pour ramener des informations supplémentaires à l'intérieur de la page. Et ces informations-là, aujourd'hui, peuvent être de différentes formes. J'ai pris l'exemple d'une image. Mais je pourrais emballer de cette façon-là une vidéo, et vous voyez que vous allez régulièrement sur des sites, sur des blogs, etc., où il y avait des vidéos, où vous apercevez, par exemple, il y a le logo de YouTube, de Dailymotion ou de Vimeo. Parce que effectivement, les gens ont inclus à l'intérieur de leur page une vidéo qui est stockée sur un de ces sites que je viens de citer. Comme ça, ils n'ont pas besoin de la mettre chez eux. Et ça permet, de cette façon-là aussi, eh bien, d'aller chercher une information qui aille repenser à ma météo de tout à l'heure. Ça veut dire que sur mon blog, je peux afficher, si je connais, entre guillemets, le code qui va bien, je peux afficher ce que certains appelleront un widget, un petit espace, une espèce d'application à l'intérieur de ma page, qui ira chercher la météo qui fait à côté de chez moi. Donc je peux, de cette façon-là, avoir une page web, qui, lorsqu'elle se charge, eh bien, les gens peuvent savoir quelle météo il fait à quelques mètres de chez moi. Je pourrais aussi avoir des logiques, alors, à partir de ce moment-là, qui deviennent véritablement hypertextes et dans tous les sens. C'est là qu'on rentre dans la complexité du web. C'est que je pourrais maintenant avoir un widget qui est encore plus intelligent que ça. Il ne se contente pas d'aller chercher la météo à l'endroit où je la donne, mais éventuellement, il va se servir des données fournies par l'utilisateur directement ou à son insu pour lui fournir sa météo à lui. Alors comment il fait ? Parce qu'avec le navigateur, éventuellement, il peut avoir des données de géolocalisation. Et à partir de ces données de géolocalisation-là, il peut vous dire « Ah, ben lui, il habite plutôt du côté de Bachu, parce que son adresse IP qui lui permet de se connecter, eh bien, cette adresse IP-là, elle me renvoie que son point d'accès, c'est le centre du Bachu. Le point d'accès du Bachu. Le point d'accès du Bachu. Donc, comment il va pouvoir savoir ça? Parce que forcément, il connaît l'adresse IP de mon ordinateur. Regardez mon schéma. J'ai un ordinateur qui est dans une petite maison. On va dire que c'est l'ordinateur domestique qui a demandé la page. Cet ordinateur domestique qui a demandé la page, il va la demander au réseau Internet. Quand il va la demander au réseau Internet, ce qu'il va dire, c'est « Je veux la page de Bron. Ok, d'accord, tu veux la page de bon. Mais quand l'ordinateur qui a bon, enfin l'ordinateur de météo, va recevoir la demande qu'on veut la page de bon, il la renvoie où? Il faut bien qu'il sache où il la renvoie. Pour savoir, il utilise l'adresse IP de votre ordinateur, qui est son espèce de plaque d'identité, sa plaque minéralogique, qui dit à quel endroit se trouve l'ordinateur pour qu'on puisse lui renvoyer l'information. Donc, à partir du moment où vous recevez une page sur votre navigateur, il y a quelqu'un qui sait où vous êtes. Après, il y a des façons de brouiller entre chez vous et puis l'endroit où vous demandez. Avec des gens qui se mettront entre les deux et qui, pour vous, iront demander les pages et vous les donneront après de façon sécurisée. Donc, ceux qui vont les envoyer ne savent pas qui vous êtes. Voilà. Mais après, il y a d'autres... Donc voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. L'autre élément important, c'est que je vous ai parlé de « je vais chercher une image, je vais chercher de l'information ailleurs ». Mais ça veut dire donc aussi qu'à l'intérieur de l'hypertexte Markup Language, le HTML, j'ai la possibilité de dire que certains éléments de texte, ou certains éléments tout court de la page, des images, etc., peuvent être des hyperliens vers d'autres documents. C'est-à-dire que lorsque je conçois un document HTML, une page web, je peux à l'intérieur de ce document créer un lien vers n'importe quel autre document qui se trouve sur le web et qui est accessible par tout le monde. Donc si je fais une page et que je mets à l'intérieur le mot hypertexte et que je trouve que la définition d'hypertexte sur Wikipédia elle est très bien, eh bien en tant que concepteur de page, je n'ai besoin de demander à personne le fait de créer un lien vers l'article de Wikipédia qui va parler de l'hypertexte. Comment je récupère l'adresse de l'hypertexte de Wikipédia? Ben simplement, quand je suis allé sur le site de Wikipédia, j'ai pu l'enregistrer dans mes signets, j'ai pu la copier à la main, j'ai pu surligner, faire un copier-coller et puis aller le mettre à l'endroit où je voulais pour la mémoriser. Donc, je peux assez facilement capter l'adresse de la page que je veux utiliser. De la même façon, si vous voulez faire pointer sur une image qui se trouve sur le web, vous faites un clic droit sur l'image et vous aurez la possibilité, normalement, si vous avez un navigateur qui est sympa, qu'il vous affiche l'adresse de l'image. Vous pouvez dire « afficher l'image dans un onglet » et l'image s'affiche toute seule, et ce qui apparaît dans la barre texte en haut, eh ben, ça sera l'adresse de l'image que vous pouvez réutiliser n'importe où, que vous pouvez copier dans un email pour mettre à quelqu'un en disant « Tiens, j'ai vu une image qui était vachement sympa à cet endroit-là. » Donc, on va avoir ce mode de fonctionnement. Alors, les pages web, au début, elles étaient très sobres, et j'y reviendrai, mais on a dans les pages web, des mises en page qui vont évoluer. Alors quand je mets des mises en page qui vont évoluer, je passe ici vite fait dessus, parce que je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. C'est simplement sur l'idée de dire qu'une page web, eh bien si dans un premier temps les pages web, c'était en gros tout un bloc, ça va évoluer et aujourd'hui vous avez remarqué qu'on a tout un tas de configurations différentes de pages web. Il n'y a pas une façon particulier de présenter une page web. Parce que selon la pratique de l'information, selon le type d'information qu'on va vouloir présenter, eh bien on va avoir tout un tas de mises en page qui sont variées et différentes. D'où cette idée que, à mon sens, il ne faut pas considérer l'Internet déjà comme un média, mais l'Internet comme étant un réseau permettant d'accéder à des médias différents. C'est-à-dire que, y compris sur le web, on ne peut pas parler de la même façon d'un site web qui va être un site participatif comme Wikipédia ou d'un site web où on ne peut que regarder des vidéos. On ne parlera pas de la même façon d'un blog. C'est pas le même type de relation, de fonctionnement, d'information, de rapport à l'information que sur un site portail qui va structurer l'information et gérer l'accès à l'information ou la génération d'informations de façon différente. on ne peut pas considérer, alors qu'on utilise bel et bien un navigateur web, que votre messagerie que vous avez sur Gmail, par exemple, c'est la même chose qu'une page de Wikipédia ou de Météo France. C'est pas le même média. Ça serait un peu comme dire, à mon sens, que sous prétexte que c'est du papier, eh bien, une carte que vous recevez de vacances, c'est la même chose que l'encyclopédie universaliste ou un exemplaire du Monde. Vous m'accordez que c'est probablement différent. Par contre, ce qui m'intéresse ici d'évoquer quand même, et j'y reviendrai quand même peut-être autrement, c'est cette idée que le web va introduire à des parcours dans l'information qui sont là aussi très variés. On avait vu, malgré tout, qu'avec le livre, on pouvait voir apparaître des parcours qui n'étaient plus forcément linéaires, comme on les avait avec les rouleaux. Mais ici, on voit qu'on va avoir des cheminements qui sont parfaitement différents. Et qui vont amener qu'une personne qui arrive sur une première page ne verra pas forcément le même Internet qu'une autre personne qui arrive sur cette même première page, parce qu'elle va choisir des cheminements qui sont différents. Donc on va avoir un rapport, à la façon dont est organisée l'information, à la façon dont on va constituer un parcours à l'intérieur de l'information, et bien ce parcours-là va de plus en plus s'individualiser. Ce que je vais voir sera probablement différent de ce que va voir mon voisin. Et par-dessus le marché, je vais probablement avoir de plus en plus souvent des parcours non linéaires qui font que j'ai un rapport à l'information qui est tout à fait particulier. Et qui fait que, par exemple, comment présenter une réflexion hypothético-déductive dans une page web qui nécessiterait que je parte d'un point A pour arriver à un point B avec toute une démonstration à l'intérieur. Si je la fragmente en plusieurs pages sur le web, c'est fini, c'est mort. Je n'ai plus cette linéarité-là. Je vais avoir des gens qui peuvent passer du début et aller à la fin. Que lorsque je vais utiliser un moteur de recherche qui va indexer les contenus de ces pages web, le moteur de recherche ne va pas me dire je te donne, tu as demandé une histoire policière pour t'endormir ce soir, il ne va pas dire je te donne la première page. Peut-être qu'il nous donnera la conclusion directement. Raté pour le suspense. Donc, on va avoir des logiques qui peuvent être parfaitement différentes. Il y a quelques années de ça, j'étais parti de l'idée qu'on avait pu bouger entre le rapport dans le web, dans l'évolution des documents, en partant de l'idée que le web évoluait avec nos pratiques, en étant parti de l'idée qu'on allait du regard à la caresse. Du regard à la caresse, c'est de dire que, dans un premier temps, on a commencé avec des lecteurs qui avaient une culture de la lecture sur papier, une culture de l'écrit qui était très particulière. Et que, au fur et à mesure, eh bien, on allait avoir des évolutions, que ces évolutions-là, elles étaient à la fois le fruit de compétences qui changeaient, le fruit d'un changement démographique du web, des présences et des utilisations du web, et puis sur les pratiques et les usages de la lecture qu'on avait sur Internet. Dans un premier temps, le web, c'était quelque chose qui s'adressait avant tout à des scientifiques. Et le web était tristounet. Les premiers qui l'ont vu, c'était des pages grises. Qu'à l'intérieur de ces pages grises, il y avait des liens hypertextes qui étaient en bleu. Les images qui faisaient lien étaient elles-mêmes encadrées d'un liseré bleu. Mais ce qui veut dire que je voyais, quand je lisais ma page, ce que je pouvais faire avec ma page. L'opérationnalité de la page était visible. Donc, on était là aussi avec une certaine indifférenciation entre le site du MIT ou le site de l'Université Lyon 1. Je pouvais passer de l'un à l'autre, c'était le même fond gris, la même police de caractère, et donc j'avais une certaine homogénéité. La même chose que sur Facebook. Mais ça allait bien parce qu'on était tous amis à cette époque-là, comme sur Facebook aujourd'hui. Donc, on était dans cette logique-là où il y avait une homogénéité identitaire et ça ne posait pas de problème. Mais à partir du moment où on a commencé à avoir beaucoup de monde sur Internet, on a eu besoin de gagner en diversité. On est passé à HTML 3.2, qui est devenu l'empire de la laideur sur Internet. Ça a été une époque particulièrement laide, parce que effectivement, on a pu, par exemple, mettre des fonds de page. Et là, on a essayé tout un tas de fonds de page. Quand on faisait la page vacances, on mettait un fond avec une photo de grain de sable. Quand on mettait la page études dans notre CV, puisque le premier site qu'on faisait c'était le site CV, la page études, eh ben, on allait mettre une page de cahier, etc., etc. Donc, c'était particulièrement moche, mais ça avait un truc hyper important. C'est que ça permettait de construire l'identité du site. Ça permettait de dire, lorsque je changeais de page, je ne suis plus au même endroit, je ne parle pas de la même chose, ce n'est pas la même personne qui parle. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé sur un site web qui a disparu, qui à un moment donné a dû faire de la diversité. Alors quand je dis un site web qui a disparu, il n'a pas complètement disparu, mais il a disparu en grande partie dans sa forme magique et horrible qu'il avait à la fin, je pense au site de MySpace. Alors pour ceux qui connaissent MySpace, MySpace, ça a été le premier réseau social incontournable, en particulier pour les musiciens. Qu'on s'appelle Céline Dion ou qu'on s'appelle les Orgues de Barbac, eh ben, on avait sa page sur Facebook. Mais quand on est Céline Dion, on n'a pas envie d'avoir la même page que les Orgues de Barbac. Et du coup, comme ils étaient tous là, on a eu besoin de créer de la diversité. Cette diversité s'exprimait, comme sur le web quelques années avant, au travers d'une recherche d'identité, mais qui a donné quelque chose qui était particulièrement moche, parce que, eh ben, effectivement, on cherche des éléments de distinction. Ces éléments de distinction font que vous avez par exemple un public aussi qui aujourd'hui quitte en partie Facebook, c'est le public des jeunes ados, ceux qui vont avoir, on va dire, entre 12 et 16 ans. Ils retournent aux premières amours de leurs grands frères et de leurs grandes sœurs d'avant Facebook, les Skyblogs. Pour ceux qui connaissent les Skyblogs, c'est d'un goût esthétique particulièrement chouette, puisque vous avez des Hello Kitty qui volent à l'intérieur d'arc-en-ciel, que vous avez des fonds de poste qui sont faits avec des tatouages, etc., etc. Donc, mais c'est normal, ils ont entre 12 et 16 ans, ils ont besoin de construire leur identité. Et ce n'est pas leurs parents et leurs oncles qui avaient des patchs de Motorhead d'un côté et d'ACDC et puis des t-shirts d'Iron Maiden qui pourront dire le contraire, parce que c'était pas plus joli. De même que d'avoir des badges aussi ou des machins brillants avec John Travolta à la sortie de la fièvre du samedi soir. Et ben, on est dans ces logiques-là de marquer l'identité. Lorsqu'on va arriver vers le HTML4, on entre dans une période où le HTML va un petit peu plus se structurer et c'est plus tout à fait les mêmes personnes qui vont travailler. Alors ce que vous voyez pas ici aussi, enfin on l'aperçoit un petit peu parce qu'il y a quelques animations sur l'image qui est derrière, mais c'est cette idée que le web, il a changé sur la façon d'être présenté et que là, on est entré dans l'ère de l'immersion. Parce que jusqu'à maintenant, si je revenais sur la photo précédente, et j'y reviens quand même, vous remarquerez quand même que les images qui sont derrière, j'ai mis plein d'images. Et que sur ces images-là, eh ben, vous percevez notamment des trompe-l'œil sur des reliefs et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on a pu, dans l'hyperlien, se passer de la norme qu'on avait à l'étape d'avant. L'étape d'avant disait, un hyperlien, c'est bleu, quand il est visité, c'est violet, point barre. Là, je peux choisir les couleurs. Il y en a, il n'y en a pas. Je ne suis pas obligé d'avoir un petit liseré autour de l'image. Eh oui, mais je viens d'une culture qui reste quand même une culture qui était ancrée sur le visuel. Alors comment je fais savoir à mes utilisateurs que c'est des trucs qui sont cliquables? Eh bien, quand ce sont des images, je crée des effets de trompe-l'œil, des effets d'ombrage qui donnent l'impression que j'ai affaire à des boutons. À l'époque de l'immersion, eh bien, ça a changé. Ça a changé, et je vais prendre un seul exemple pour ça, c'est que désormais, le lien, eh bien, c'est le créateur du site qui va pouvoir choisir de quelle couleur il est. Il est souligné, il n'est pas souligné, il fait comme il veut. Pareil pour l'image. Et puis, il oublie les conventions de mettre des reliefs, parce que ces reliefs-là, ben, ils sont quand même moches, ils sont pas beaux, etc. Ils donnent un goût, un côté un petit peu trop baroque à certains sites qui se voudraient classe. Aujourd'hui, on emploie un terme pour dire ces sites qui sont super lisses. On les appelle flat, le flat design. C'est ce que vous avez grosso modo sur les tablettes, il n'y a plus le moindre relief, c'est des trucs bicolores, il n'y a pratiquement plus rien. On est dans le flat design, appauvri au maximum. Eh bien, on va pouvoir entrer là-dedans parce que la façon du coup de repérer ce qui est cliquable à l'intérieur d'une page, ça ne se fait plus avec les yeux. Ça se fait avec le curseur de la souris. Ça se fait avec le curseur de la souris parce que le curseur de la souris, quand il va passer sur la page et qu'il va y avoir un lien, ça se transforme. Et ça se transforme en quoi? Quand vous arrivez sur un lien avec votre curseur, c'est une petite main. C'est une petite main. Donc vous êtes dans le toucher, vous êtes dans la caresse. On a quitté l'endroit où notre œil pointait pour le remplacer par une main. Ça veut dire que d'une certaine manière, on a procédé à une bascule de la position de l'utilisateur qui était derrière son écran avec sa souris, et où il y a une transposition de sa présence à l'intérieur même de la page et donc de l'univers web. On est dans une logique de le faire rentrer à l'intérieur. Ce qui est quelque chose qui, aujourd'hui, semble basculer en partie en sens inverse, lorsqu'on arrive avec des interfaces tactiles. Parce que les interfaces tactiles, elles ne vous mettent plus à l'intérieur du document. Elles vous remontent à la surface du document. Donc, on est dans un rapport au document qui est différent. Alors, dans les mots que j'ai utilisés ici, il y a deux mots que je vais définir quand même un petit peu. C'est responsive et pervasif. Alors, quand on dit responsive, qu'on pourrait traduire en français par responsif, ou plus exactement qui s'adapte, c'est un site web qui va s'adapter, quel que soit le type de support utilisé pour le consulter. C'est-à-dire que lorsque vous allez le voir avec votre grand écran d'ordinateur, on a une mise en page de l'information qui est particulière. Mais si vous y allez avec une tablette, si vous y allez avec un smartphone, eh ben vous avez une présentation qui est différente. Que j'avais évoqué dans cette diapo-là, quand vous voyez derrière le côté avec l'information qui est conservée mais restructurée de façon différente. Alors je pense qu'aujourd'hui on a des querelles d'église ou de réflexion sur comment ça va se passer dans l'avenir, mais moi je fais partie des gens qui défendent cette idée qu'il y a des sites qui se doivent d'être responsives, mais qu'on va retourner vers des formes de distinction, qu'il va y avoir des sites web spécifiquement avec de l'information faite pour être vécue, entre guillemets, sur un ordinateur, et d'autres qui vont être avec de l'information faite pour être vécue sur un smartphone ou sur une tablette. Parce que ce ne sont pas les mêmes appareils. Et on ne les utilise pas aux mêmes endroits, pas avec les mêmes pratiques. Avec une tablette, on va avoir des mouvements qui ne sont pas les mêmes. On va avoir un confort d'accès au document et de parcours du document qui n'est pas le même. Si je reviens donc ici, donc voilà pour le responsive, cette idée qu'on a un site qui s'adapte tout le temps, ça a quand même un avantage. Pour qu'un site puisse s'adapter à n'importe quel appareil, eh bien ça veut dire qu'on a utilisé des technologies qui vont différencier la forme et le contenu. Ce qu'on a fait avec la nouvelle version d'HTML qui s'appelle HTML5, qui est accompagné d'un autre truc qu'on appelle CSS3. Donc c'est technique, mais CSS3, c'est ce qu'on va appeler les feuilles de style. C'est ce qui va gérer la mise en forme. Et bien ces trucs-là vont servir du coup à avoir un contenu qui est fluide. Au départ, c'était en termes d'accessibilité pour que, quels que soient les handicaps qu'on puisse avoir, ça soit accessible. Mais finalement, ça sert vachement bien aux gens qui ont développé des nouveaux devices, de nouveaux appareils de consultation. Pervasif, ça veut dire que l'information est accessible tout le temps partout. Donc ce sont des technologies qui font que le web, eh bien, que vous soyez dans la rue, que vous soyez, etc., vous allez pouvoir le consulter, vous allez pouvoir consulter le web. Ce que vous avez un petit peu avec ces gens-là que vous voyez en train d'utiliser un flash code, un espèce de code qui est sur ici sur, sur la petite notice, et qui va leur permettre d'avoir une information complémentaire sur les oiseaux qui peut-être sont en train de voler au-dessus de l'étang à côté duquel ils sont. Donc ça, c'est la version intellectuelle, culturelle et qui augmente notre réalité du pervasif. Je reste moi personnellement persuadé que l'intérêt majeur du pervasif pour les industriels, c'est que lorsque vous allez passer devant chez H&M, votre appareil fera là, vous regarderez et vous aurez un message qui s'affichera en disant: vous êtes devant chez H&M, vous avez un code de réduction de 50% si vous avez acheté quelque chose dans les 3 minutes 30 qui suivent. À partir de ce moment-là, vous avez un temps de réaction, un temps critique qui est diminué de façon considérable, qui vise à créer de l'achat compulsif sur lequel, effectivement, vous ne réfléchissez pas, vous le faites et c'est fait. Et je terminerai donc sur cette idée que, du coup, on a eu un web qui a fonctionné sur trois générations, enfin, où on arrive, à mon sens, aujourd'hui, sur une troisième génération. Alors, on ne serait pas... tous les gens qui parlaient du web ne seraient pas forcément sur cette idée-là. Mais il me semble qu'il y a quand même un premier web qui était celui du client-serveur, qui était un web qui fonctionnait sur un modèle particulier où il y avait des gens qui publiaient de l'information sur le web et des gens qui la consultaient. On était dans cette logique d'une consultation. Que la particularité de ce qu'on a pu appeler le web 2.0, c'est que c'était un web qui était dynamique et participatif. Ce qui définit véritablement, à mon sens, la notion de web 2.0, c'est de dire que la page web n'est plus seulement un lieu de consultation. C'est un lieu d'écrit lecture. C'est à la fois un lieu de lecture, à la fois un lieu d'écriture, parce qu'on va pouvoir la commenter, parce qu'on va pouvoir la transférer, on va pouvoir rajouter des choses d'une manière ou d'une autre. Donc il y a tout un tas de technologies différentes qui vont là-dessus, mais c'est cette idée que les gens qui sont sur le web ne sont plus simplement des gens qui consultent le web, ce sont des gens qui éventuellement produisent de l'information, ne serait-ce qu'en cliquant sur un truc qui dira que plus quelque chose ou qui rajouteront un commentaire. Et aujourd'hui, on entre dans un web 3.0 dont vous avez pu entendre parler notamment au travers d'un truc qu'on appelle le cloud computing. Donc le cloud computing, c'est l'informatique dans les nuages. C'est une prolongation du web, mais c'est cette idée que l'information, et en particulier nos informations, sont de plus en plus stockées sur des sites qui sont en ligne. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de choses sur notre ordinateur, mais de plus en plus de choses qui sont stockées chez des prestataires ou sur des serveurs qui vont stocker de l'information pour nous. Donc, ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être Amazon, ça peut être Wikipédia, ça peut être plein de gens, ça peut être votre fournisseur d'accès, ça peut être votre propre cloud. Aujourd'hui, il existe une solution qui est relativement facile à installer pour des gens qui font un petit peu de web, qui s'appelle OwnCloud, qui vous permet d'installer sur un serveur que vous louez quelques dizaines d'euros par mois ou par an, un système qui vous permet de mettre en ligne votre carnet d'adresses, vos photos, votre musique, et qui vous permet d'y accéder quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc cette idée qu'on va mettre, entre guillemets, dans les nuages de l'information, et qu'on va avoir comme ça de l'information qui est éparpillée sur plein de sites différents, et de plus en plus des technologies, entre guillemets, d'agrégation, qui permettent de rassembler ces informations et de les visualiser ensemble. Alors vous avez des trucs pour vos usages personnels, comme vous avez des trucs pour vos veilles personnelles, et je pense notamment, par exemple, à un truc qui s'appelle, vous pourrez regarder, un machin qui s'appelle Scoop.it. Scoop.it, c'est un système qui vous permet de dire « j'aime bien ce site web-là, j'aime bien monsieur machin qui envoie des tweets à droite et à gauche » et qui va réunir tout ça pour vous afficher une page qui résume ou qui affiche les résumés de toutes les informations des gens que vous aimez suivre. Et vous avez comme ça un espèce d'aperçu de cette façon-là. et puis d'aller vers après ce qui s'appelle l'hébergement, l'auto-hébergement. Donc c'est le cloud version individuelle, et cet auto-hébergement là, eh bien c'est cette idée qu'on aurait notre propre serveur et nos propres données qui iraient même un petit peu plus loin, c'est des trucs que j'ai vu qui commençaient à se développer, du serveur entre pairs. C'est-à-dire que en gros, vous avez un serveur chez vous, pas très compliqué à mettre en place en vérité, hein. Mais vous avez un serveur chez vous dont vous dites, ben voilà, maintenant je vais avoir des disques pour pas grand chose qui font 2 teraoctets, 4 teraoctets, donc de quoi stocker des milliers et des millions de photos, j'en ai pas tant. Mais ce que je vais pouvoir faire avec ça, c'est dire, je consacre une partie de mon disque dur à une communauté pour que de façon cryptée, sans que je sache forcément ce qu'il y a, enfin, en étant sûr que je ne sache pas ce qu'il y a sur mon disque, j'alloue une partie à la communauté, ce qui fait que les autres vont répliquer une partie de leurs données personnelles sur mon serveur qui est dans la communauté, sur celui de mon voisin, etc., etc. De sorte à ce que si leur machine elle brûle, ils en rachètent une autre et réaccèdent à toutes leurs données qui sont éparpillées de par le monde. Et ce système-là est crypté. Ce système-là fonctionne entre particuliers et ne nécessite pas du coup qu'on confie nos données à des services dont on peut parfois douter leur façon de fonctionner, sauf à comprendre qu'ils sont subventionnés par les services secrets américains. Ce qui est le cas pour la plupart des services de réseaux sociaux qui ne rapportent pas d'argent, donc posez-vous la question de comment ils peuvent vivre, si ce n'est en étant subventionnés. Donc voilà un petit peu cette idée, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, et je réponds à vos questions très volontiers. Merci.